France Inter.
Bonjour, ravi de vous retrouver dans Questions politiques, l'émission politique du dimanche sur France Inter, diffusée sur France Info la télé et en partenariat avec le journal Le Monde. C'est aujourd'hui une des crises les plus graves, celle du logement, avec 4 millions de personnes qui en subissent quotidiennement les conséquences. Le secteur a besoin d'une vraie politique de l'offre, avec plus de construction pour avoir plus de logements à proposer. C'est le chantier titanesque qui vient d'être confié au nouveau ministre du Logement, un libéral, un thatchérien, disent même certains, qui s'est montré jusqu'ici dans sa loi anti-squat, plus préoccupé par les propriétaires et par leurs impayés que par les difficultés endurées par les mal logés. C'est donc Guillaume Kasbarian, 5e ministre du Logement en 7 ans, qui est notre invité ce dimanche dans Questions politiques en direct et jusqu'à 13h.
Questions politiques. Karine Bécard sur France Inter.
Bonjour Guillaume Kasbarian.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour vous interviewer, nous serons trois avec Françoise Fressoz du journal Le Monde et avec Audrey Goutard de France Télévisions. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour. Bonjour.
On commence chaque dimanche cette émission avec nos images de la semaine. Vous nous racontez ce qui vous a marqué dans l'actualité en particulier. Je vous regarde parce que c'est avec vous qu'on va commencer. Qu'est-ce que vous avez repéré ?
Alors, ce que j'ai retenu comme image de la semaine, c'est une image d'usine. C'est l'usine de Novo Nordisk à Chartres, qui est mon territoire d'élection, territoire où j'habite. Et cette usine, c'est une usine danoise qui investit continuellement depuis des années en France. Et l'année dernière, cette année plutôt même, elle a annoncé 2 milliards d'investissements supplémentaires dans notre pays, avec des centaines d'emplois à la clé. Et je vous montre cette photo cette semaine parce que nous avions cette semaine le baromètre de l'investissement étranger en France. Et il se trouve que la France, pour la 5e année consécutive, est la première destination des investissements étrangers en Europe.
On baisse mais on est toujours sur le podium.
On baisse un tout petit peu, mais on a quand même 1200 projets d'entreprises qui investissent dans notre pays, donc d'investisseurs étrangers qui y vont. Puis c'est 40 000 emplois à la clé. Donc les emplois, par contre, c'est même en augmentation. Et donc, c'est tout le travail qui a été mené collectivement par le président de la République, par le Premier ministre, par Bruno Le Maire, par Roland Lescure, et qui permet d'accélérer la réindustrialisation des territoires. Et chez moi, à Chartres, cela fait partie des exemples, et je voulais le mettre en avant cette semaine, parce que c'est une bonne nouvelle pour notre pays. Et donc, on peut se réjouir de ces créations d'emplois et ces investissements étrangers dans notre pays.
C'est noté. On passe à Françoise. Autre image qui a marqué notre 1er mai.
Oui, alors je retiens une image de Raphaël Glucksmann qui est à Saint-Étienne et qui essaye de participer à un cortège de la gauche pour le 1er mai. Et il se fait accueillir au cri de Parti Socialiste, P comme pourri, S comme salaud. Son entourage reçoit des œufs avec de la peinture dedans. Jusqu'à présent, Raphaël Glucksmann avait plutôt comme principe d'avoir un seul adversaire qui était Le Pen et de pas réagir à ça. Mais là, visiblement, il en a eu gros sur la patate. Donc, il a mis en cause les Insoumis qui, aussitôt, l'ont accusé de mentir, qu'ils étaient absolument responsables de rien. Mais enfin, dans la même semaine, on s'est aperçu que Manon Aubry prenait encore pour cible Raphaël Glucksmann en disant « Moi seul, au Parlement européen, je ne touche que mes indemnités, les autres sont des pourris, ils dépendent des entreprises,
des lobbies,
parce qu'ils gagnent plus, voilà. » Donc, nouvelle polémique où Raphaël Glucksmann est obligé de dire « Non, moi, ce sont des droits d'auteur, donc je ne suis pas pourri. » Et on voit bien que le climat est absolument épouvantable à gauche, parce qu'il y a une guerre de leadership qui se joue. Mélenchon ne veut pas abandonner le statut qu'il a réussi à se constituer lors de la dernière présidentielle législative, il veut rester le leader de la gauche et il voit bien que Glucksmann progresse, que ça empiète, mais on retrouve cette guerre éternelle des gauches qui empêche de toute façon à un moment d'arriver à la présidentielle parce qu'ils doivent être unis et ils n'y arrivent pas pour le moment.
Guillaume Kasbarian, un petit mot sur Raphaël Glucksmann, hué donc, poussé en dehors du défilé du 1er mai. Ça vous a choqué ou pas, ces images? Vous en avez pensé quoi?
Quand on est un démocrate et un républicain et qu'on aime le débat politique, on ne peut pas se satisfaire de la violence dans notre pays. Et donc, moi, je condamne toute forme de violence qui empêche des responsables politiques de faire campagne, d'aller sur le terrain, de débattre avec les uns et les autres. La violence, ça n'est jamais la solution au débat politique et à la démocratie et à la République. Donc, voilà, de façon générale... je condamne toute forme de violence.
Même si Raphaël Glucksmann suscite beaucoup de jalousie, alors comme l'expliquait Françoise Fressoz vis-à-vis des insoumis, mais aussi un petit peu vis-à-vis des macronistes.
Non, mais moi, je vais laisser la gauche faire son match entre elles. Enfin, je veux dire, voilà, il se trouve que j'ai été parlementaire pendant 6 ans et demi à l'Assemblée nationale. La NUPES, c'est une union de beaucoup de composantes de gauche qui travaillent ensemble, qui votent en même temps, qui s'accordent sur des propositions de loi, qui fonctionnent ensemble. Donc voilà, après, on comprend bien qu'il y a une volonté, là, manifestement, de M. Glucksmann d'essayer de se détacher de ça et de dire non, moi je suis différent, etc. Bon, bah, il faudrait qu'il aille au bout de la logique. Est-ce qu'il quitte définitivement la NUPES? Est-ce que le PS définitivement quitte la NUPES? Est-ce que jamais, à l'avenir, le PS ne signera à nouveau avec Mélenchon? Bah, posez-leur la question. Voilà, mais je les laisse à gauche débattre entre eux.
Allez, dernière image avec Audrey Goutard. On en parlait déjà dimanche dernier, mais c'est encore largement dans l'actualité cette semaine.
Oui, alors j'ai choisi cette photo qui a été prise mardi dernier au moment du blocage de la Sorbonne. Les forces de l'ordre s'apprêtent à expulser les étudiants pro-palestiniens de la faculté. C'est extrêmement rare. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que le ministère de l'Intérieur n'a pas la main sur des expulsions dans une faculté. C'est seul le président de la Sorbonne et des universités peut le décider. Donc à ceux qui se sont émus que les autorités aient laissé des étudiants exprimer leurs opinions, même parfois de façon bruyante, eh bien il faut savoir que c'est un droit particulier qui existe depuis des siècles et qui garantit la liberté d'opinion et d'indépendance des facultés. Ça remonte à 1229, sachez-le, au Moyen-Âge, quand au même endroit, à la Sorbonne, une répression contre des étudiants s'est terminée par un bain de sang. Eh bien, à ce moment-là, les professeurs ont décidé de faire grève et de faire appel au pape de l'époque pour qu'il promulgue une règle qui a été respectée et promulguée d'année en année. La dernière, donc c'est une loi de 2013 qui dit toujours la même chose. Eh bien, les facultés sont indépendantes et dans les facultés, on peut exprimer ses opinions.
Merci pour cette petite page d'histoire.
Oui.
Là aussi, ça vous gêne de voir ces mobilisations dans les grandes écoles, sur les campus, à partir de la semaine prochaine, même sans doute dans les lycées?
Non, mais que les universités et les écoles soient des lieux de débat où on exprime des opinions, c'est tout à fait naturel. Et c'est normal. Qu'on les bloque, c'est strictement inacceptable. Le blocage, l'entrave à la liberté d'étudier, l'entrave à l'expression indépendante du débat d'idées est totalement inacceptable. Et donc le président de la République, d'ailleurs, dans une interview aujourd'hui, condamne avec grande fermeté ces blocages. Effectivement, le gouvernement, à la demande des établissements, quand ils en font la demande, effectue des évacuations pour empêcher le blocage. Mais le blocage, ça n'est pas le débat. Le blocage, ça n'est pas la liberté d'expression. Le blocage, ça n'est pas l'expression démocratique et républicaine du débat. Et donc, moi, je ne me satisfais pas du blocage, et je crois que personne ne peut s'en satisfaire.
Mais
pas comme ça que
pas
ça fonctionne.
Françoise.
C'est quand même des jeunes qui sont extrêmement choqués par l'injustice qui se produit. Et ça, vous... Il y a toujours, souvent eu des blocages dans les universités.
Qu'ils soient choqués par ce qui se passe, bien évidemment, au niveau international, c'est assez naturel quand on est jeune de s'intéresser à ce qui se passe autour dans le monde. J'aurais bien aimé d'ailleurs que dans ce qui les choque, ils rappellent aujourd'hui la situation des otages qui sont, depuis le 7 octobre, bloqués et sous emprise et bloqués par le Hamas. J'aurais bien aimé aussi que sur d'autres combats, ils se mobilisent. On les a pas beaucoup entendus quand les Arméniens du Haut-Karabakh ont été expulsés par l'Azerbaïdjan et qu'il y a eu 150 000 personnes qui ont été épuré ethniquement à l'époque au Karabakh. Donc, je constate juste que c'est normal qu'il y ait du débat et chacun est libre de son opinion. Je constate que c'est un petit peu à géométrie variable et surtout, moi, je trouve que c'est inacceptable d'empêcher les autres d'étudier et d'empêcher le débat en bloquant des universités. C'est pas ça le débat, c'est pas ça la démocratie.
Mais je comprends toutes les références que vous faites, mais sur France Inter, vendredi matin, il y avait Maître Henri Leclerc qui disait « Aujourd'hui, dans les universités, nous sommes face à un mouvement du cœur ». Vous êtes d'accord avec ça ou pas ?
Mais c'est très bien d'avoir du cœur et c'est très bien d'avoir des mouvements de cœur. Mais je constate encore une fois que le cœur, manifestement, est à géométrie variable et qu'on les a moins entendus. On les a pas vus bloquer, on les a pas vus exprimer leurs sentiments et leur cœur à d'autres moments où des populations dans le monde ont été opprimées, menacées, déportées. Je constate juste que parfois, l'expression du cœur est à géométrie variable, manifestement.
Notre état d'esprit, il est clair. On va se battre centimètre par centimètre, mètre carré par mètre carré, pour aller chercher du logement pour les Français. On va aller chercher tous les logements possibles avec les dents pour les Français.
Aller chercher des logements avec les dents, le Premier ministre Gabriel Attal, qui appelle donc à un choc de l'offre. Voilà comment on appelle ça. Ça s'est passé le 14 février dernier à l'occasion d'un déplacement en Île-de-France dans la commune de Villejuif. Pour commencer, ma question va être toute simple, Guillaume Casbarian, avec votre projet de loi relatif au développement de nouveaux logements abordables. C'est le nom de cette loi. Présenté vendredi donc en Conseil des ministres, vous pariez sur combien de nouveaux logements en France chaque année ?
Alors, ça sera plusieurs dizaines de milliers d'offres neuves en plus, puisque l'objectif du projet de loi, c'est de construire plus, et c'est d'avoir plus d'offres de logements pour tous les Français, c'est-à-dire de l'offre sociale, de l'offre intermédiaire, de l'offre libre, pour qu'il y ait de plus en plus d'offres dans notre pays. Dans un contexte où, vous l'avez rappelé, nous sommes dans une crise du logement très importante, avec des taux d'intérêt qui ont augmenté ces derniers 18 mois, ce qui a empêché beaucoup de Français de réaliser l'acquisition de leurs rêves, et une offre locative qui est très effondrée, avec une demande qui n'est pas satisfaite. Donc on a besoin de mettre plus d'offres sur le marché, et donc plusieurs dizaines de milliers...
C'est pas beaucoup ça? Ça suffit pas, parce que moi, je lis des chiffres, on construit 280 000 nouveaux logements par an.
287 000, effectivement, et c'est en repli de 22% par rapport à
Et les spécialistes disent qu'il en faudrait 500 000.
Mais nous,
donc ça va pas
suffire. Le besoin, nous avons fait le choix d'exprimer des besoins territorialisés. C'est d'ailleurs pour ça que dès que je suis arrivé, nous avons lancé avec Gabriel Attal des territoires engagés pour le logement, 22 territoires sur lesquels nous avons mis un objectif de 30 000 constructions dans ces 22 territoires.
En 3 ans. Là aussi, c'est pas assez.
Mais ce n'est pas exhaustif sur la totalité du territoire français. Ce sont 22 territoires ciblés sur lesquels il y a des besoins parce qu'il y a des centrales nucléaires, il y a des usines, il y a des tensions transfrontalières avec des habitants qui viennent s'installer. Il y a de la croissance démographique. Ce sont des territoires ciblés, Dieppe, Ferney-Voltaire, le Pays Basque, Dunkerque, sur lesquels nous mettons le paquet pour qu'on soit 30 000. Mais il n'y a pas que ça. On a aussi signé un pacte sur le logement intermédiaire avec tous les acteurs pour créer 75 000 logements intermédiaires dans les 3 ans qui viennent. Et on a aussi, et j'ai demandé aux établissements publics fonciers, de libérer jusqu'à 17 000 logements supplémentaires en termes de terrain cette année. On a aussi, avec Olivia Grégoire, mis un plan sur les zones commerciales, sur lesquelles il y a un potentiel, au sein des zones commerciales, de créer 25 000 logements supplémentaires. Mais l'approche, comme vous le voyez, que nous prenons, c'est une approche où on construit de tout, c'est-à-dire du logement social, du logement intermédiaire, du logement libre, et nous le construisons de façon territorialisée, là où il y en a le plus besoin. C'est bien de mettre des objectifs
Attendez, je vais donner la voix tout de suite à Françoise. Juste une question, vous utilisez beaucoup de mots. Moi, j'ai utilisé le mot logement abordable. En soi, je ne sais pas ce que c'est. Et vous venez de parler de logement intermédiaire, on ne sait pas ce que c'est non plus.
Alors, le logement, donc quand je parle de logement abordable, c'est du logement accessible pour les Français. D'une manière générale, plus vous mettez de l'offre sur le marché, plus les prix ont tendance à se stabiliser, voire baisser. Et l'offre abordable, c'est à la fois du logement social, qui est abordable parce qu'elle est beaucoup moins chère que le prix de marché. C'est du logement intermédiaire. Le logement intermédiaire, c'est un produit qui est 15 à 20% moins cher que le prix de marché. C'est-à-dire que par rapport à une location dans le parc privé, si vous louez à un particulier par exemple, ça sera 15 à 20% moins cher que le prix de marché. C'est un peu plus cher que le logement social. Mais c'est moins cher que le marché libre. Et puis ensuite, vous avez l'offre libre de marché, mais plus vous avez d'offres sur un marché, même si elle est libre, plus ça stabilise les prix. C'est le principe d'une économie de marché. Donc quand je dis qu'on a besoin de plus d'offres de logements abordables, c'est plus de logements sociaux, plus de logements intermédiaires, mais aussi plus de logements libres, parce que plus on a d'offres sur le marché, plus les prix ont tendance à se stabiliser, voire à baisser. C'est ce que nous essayons de faire pour que tous les Français, quels que soient leurs moyens financiers, puissent se loger à des prix décents et que le poids relatif du logement dans leur budget baisse dans les années qui viennent. C'est ça l'objectif, de mettre plus d'offres sur le marché.
Vous êtes donc bien un libéral, vous comptez sur le marché.
J'ai jamais caché qui j'étais, donc c'est assez transparent. Oui, je crois à la liberté.
Alors, sur le fond de votre projet de loi, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est est-ce que vous faites ce projet de loi parce qu'au fond, il n'y a plus beaucoup d'argent dans les caisses de l'État et tous les promoteurs immobiliers qui vous demandent de soutenir par des dispositifs genre Pinel, il n'y a plus d'argent? Ou est-ce que vous le faites par idéologie en disant finalement, ce qui compte, c'est essayer d'aider les classes moyennes en priorité et mon plan sélectif va viser ces classes moyennes?
Alors, on le fait pour mettre plus d'offres sur le marché et la question financière...
Mais à moindre coût quand même.
On ne parle pas de finances. Ce projet de loi, il ne parle pas de finances parce que ça n'est pas un projet de loi de finances. Donc tous les débats budgétaires auront lieu en fin d'année lors du projet de loi de finances et ça n'est pas vrai de dire qu'aujourd'hui, le ministère du Logement ne met pas d'argent. C'est un ministère qui, chaque année, met des milliards et des milliards.
Votre prédécesseur avait proposé un plan qui coûtait et qui n'a pas été...
Je le dis, aujourd'hui, le budget du ministère du Logement, c'est 16 milliards d'APL, c'est 3 milliards sur l'hébergement d'urgence, c'est 5 milliards sur la rénovation thermique des logements. Ce sont des milliards aussi d'exonérations fiscales, de TVA réduite et de dispositifs qui ont été annoncés et mis en place par mes prédécesseurs et que nous allons payer jusque dans les années 2038, par exemple le Pinel. Ce sont des dispositifs qui ne coûtent pas juste à l'instant T. pendant des années. Ensuite, vous avez des répercussions budgétaires. Donc, le budget du ministère du Logement, il est là. Et
mais
il est
la question
significatif.
Est intéressante, c'est...
Mais
vous
pourquoi est-ce qu'on fait ce projet de loi? On le fait parce qu'il n'y a pas que des questions budgétaires. Il y a aussi, aujourd'hui, dans le logement, des blocages, des complexités, des règles qui empêchent la simplification administrative, d'où le fait qu'on a un volet sur la simplification administrative pour notamment les acteurs de la construction. Il y a des blocages pour les maires et les élus locaux qui aujourd'hui les empêchent de faire du logement ou les désincitent à faire du logement. Il y a des blocages réglementaires et législatifs pour les bailleurs sociaux qui aujourd'hui les empêchent de dégager suffisamment de moyens pour pouvoir construire. Et tout ça, ça n'est pas que du budget, du chèque, de la subvention. C'est des blocages réglementaires et législatifs. Et mon rôle, c'est pas de dire que la solution miracle à la crise du logement, c'est que des dispositifs fiscaux. C'est aussi de regarder toutes les règles, toutes les lois, tout ce qui aujourd'hui peut bloquer la construction d'offres neuves et de m'y attaquer et de pouvoir renforcer la simplification administrative, la libération du marché, comme je viens de vous l'expliquer.
Audrey,
vous parlez de règles justement. Eh bien, il y a une règle qui était assez simple, c'était 20% de logements sociaux dans les villes de plus de 20 000 habitants. Si je
20 ou 25% dans les villes de plus de 3 500 habitants.
Donc la règle, elle était claire. On se rend compte qu'une grande partie de villes les plus bourgeoises finalement, ne respectent pas cette règle. Et vous parliez de logements intermédiaires. Est-ce que l'assouplissement, c'est pas justement abandonner, laisser ces villes qui ne respectent pas, qui sont finalement des villes délinquantes, continuer à ne pas donner de logements sociaux en leur proposant de donner des logements intermédiaires. C'est ce que disent vos détracteurs en expliquant qu'effectivement, vous ne demanderez plus aux villes de respecter ces 20% de logements sociaux qui étaient finalement la règle de base.
Alors, oui ou non ? Manifestement, mes détracteurs n'ont pas lu le projet de loi. La loi que vous évoquez, ça s'appelle la loi SRU. Elle existe depuis l'an 2000 et elle a été modifiée d'ailleurs 10 fois par mes prédécesseurs. Donc
oui,
c'est
parce
pas
que personne ne la respecte.
Mais attendez, aujourd'hui, il y a 2100 communes qui sont concernées par cette loi et qui ont l'objectif d'avoir jusqu'à 20-25% de logements sociaux sur leur territoire. La moitié d'entre elles, aujourd'hui, sont à l'objectif et ont dépassé les 20-25%. L'autre moitié, à peu près 1000 communes, ne sont pas encore à 20-25%. Et du coup, quand vous n'êtes pas à l'objectif, on vous propose pendant 3 ans de construire de nouveaux logements. Ce mécanisme-là, il existe et il va être maintenu. Moi, j'ai toujours, on ne remet absolument pas en cause le mécanisme qui vous fixe des objectifs de construction dans les années qui viennent.
Oui, mais vous
ce que l'on dit,
ce
que l'on dit, c'est pas remplacer, c'est qu'on leur, on va leur dire, vous allez par exemple une commune avoir 1000 logements sociaux à construire dans les années qui viennent, dans les 3 ans qui viennent. Ce que nous allons dire, c'est qu'au sein de ces 1000 logements, vous pourrez avoir 750 nouveaux logements sociaux, donc on va bien en construire plus, et jusqu'à 250 en logements intermédiaires pour les classes moyennes. Donc on permet d'intégrer du logement intermédiaire que je vous décrivais tout à l'heure pour les classes moyennes dans ces objectifs de construction neuves, mais il y a toujours des objectifs de construction, il y a toujours des mécanismes de déficit, il y a toujours des mécanismes de carence, mais pas du tout. Quand je vous prends l'exemple,
si
c'est
vous
on
vous
va en construire 750.
Vous avez moins de logements sociaux.
Mais moi, je n'oppose pas les logements entre eux. Ce que je dis, on a besoin de plus de logements sociaux et plus de logements intermédiaires. Et donc là, on ne permet pas en plus une substitution un pour un. Ce que l'on dit, c'est que vous pouvez, sur un objectif de 1000 logements par exemple, aller jusqu'à 250 de logements intermédiaires et 750 de logements sociaux. Donc vous avez toujours des objectifs ambitieux, vous intégrez une part de logements intermédiaires et ça va même accélérer la construction. Parce que la réalité, quand j'étais par exemple à Anglet au Pays Basque, c'est que vous avez des communes qui font aujourd'hui des ensembles où ils font pas 100% de social. Ils ont, à Anglet c'était le cas, sur 109 logements, une trentaine de logements sociaux, une dizaine de logements intermédiaires. Après, vous avez du logement étudiant, vous avez du BRS, vous avez du libre. Vous avez des ensembles où on crée de la mixité sociale et qui, en plus de ça, sont économiquement intéressants. Et donc, ils sortent plus facilement
de terre. Donc, ça ne sera pas à la place, ça sera en plus.
Mais ce que je vous dis, les objectifs triennaux seront toujours présents. On fixera donc des objectifs de construction supplémentaires dans les années qui viennent. Mmh. Ça change pas. Ce que l'on dit, c'est qu'au sein de ces objectifs, vous pourrez réaliser une part de logements pour les classes moyennes et pas 100% de logements sociaux purs. Et en réalité, ça facilitera l'atteinte de ses objectifs et ça accélérera les projets de construction parce que quand vous mettez de la mixité sociale, quand vous mettez du logement intermédiaire, eh bien ça sort plus facilement de terre. C'est le cas dans énormément de projets dans notre pays, mais c'est bien de l'offre neuve en plus qui va arriver grâce à cette disposition.
Donc finalement, vous vous adressez aux classes populaires et aux classes moyennes ?
Eh bien, et à tous les Français. Moi, je suis le ministre du logement de tous les Français, pas uniquement de certains. Donc à ceux qui sont bénéficiaires du logement social, à ceux qui veulent rentrer dans le logement social, à ceux qui sont aujourd'hui dans le parc intermédiaire et à ceux qui sont, et c'est la majorité, dans le logement libre, parce qu'aujourd'hui, 80% des ménages sont aussi dans le logement libre, il ne faut pas l'oublier. Donc, le logement, c'est pour tous les Français.
Alors, on vient de parler de ces communes qui sont soumises, enfin, qui doivent appliquer la loi SRU, cette loi de 2000. Je voudrais qu'on parle de ces communes également, de moins de 3500 habitants, qui font tout pour ne pas construire des logements supplémentaires, pour rester effectivement sous les 3500 habitants et ne pas avoir à appliquer cette loi SRU. Est-ce qu'il faut les pousser ? Est-ce que ça fait partie de votre plan pour effectivement créer de l'offre supplémentaire ?
Mais typiquement, si on arrive à avoir des objectifs de construction qui sont réalistes et qui font du panachage avec du logement intermédiaire et du logement social. On aura probablement, et si on a des assouplissements qui permettent de rendre la pente de construction plus atteignable et plus réaliste pour les maires, qui sont au cœur de la construction, eh bien, ça enlèvera un certain nombre de freins à la croissance des communes, et cela encouragera des communes qui aujourd'hui galèrent effectivement à atteindre des objectifs, à réussir à trouver des montages financiers où c'est plus facile de les atteindre. Donc moi ce que je veux, et c'est le sens du projet
Donc
de loi...
Donc vous les poussez pas, vous les contraignez pas.
Il n'y a dans ce projet de loi aucune nouvelle obligation, nouvelle taxe, nouvelle contrainte, nouvelle complexité pour les maires. Je le dis très clairement, c'est un projet de loi qui va leur simplifier la vie, qui va leur donner des outils nouveaux et qui va rendre les objectifs atteignables pour eux en les encourageant.
Donc vous leur donnez plus
parce
de pouvoir.
Mais je fais confiance aux maires. Bien
alors,
j'assume
justement...
de faire confiance aux maires. Les permis de construire sont aux mains des élus locaux et des maires. Nous sommes dans une logique de décentralisation. Je fais confiance aux maires qui sont l'échelon de la démocratie locale le plus important à mes yeux. J'assume de leur faire confiance et de faire tout pour que l'État ne leur mette pas des contraintes supplémentaires, mais les aide à atteindre des objectifs et leur facilite la vie au quotidien. Toutes les mesures du texte vont permettre de fluidifier les choses pour que les maires arrivent à mettre plus d'offres de logements sur le marché. C'est le sens du projet de loi et c'est le sens de toutes les mesures qui ont été construites à l'intérieur.
Alors Françoise Pluaudray.
Ah oui, dans les pouvoirs du maire, il y a notamment un droit de regard sur l'attribution des logements sociaux qui est beaucoup plus renforcé. Et une des critiques, une des réactions qui a été faite à vos propositions, c'est... Attention au clientélisme, est-ce qu'on ne va pas renforcer, au fond, le maire qui va aider ceux qui voteront pour lui et au moment où on a une très forte progression du Rassemblement national, est-ce que ce n'est pas aussi donner, au fond, un pouvoir très, très fort
Attention à ces accusations de clientélisme vis-à-vis des maires. Moi, je le redis, je fais confiance aux maires. Et les maires, aujourd'hui, savent ce qu'il faut pour leur territoire, sont engagés pour mettre plus d'offres sur le marché, sont engagés pour être bâtisseurs, et on veut encourager les maires bâtisseurs. Ne créons pas une défiance irrationnelle vis-à-vis des maires, ça n'est pas du tout dans la logique des choses, et ça n'est pas ce que nous voulons faire. Aujourd'hui, les maires, ils assistent déjà à des commissions, qui sont les commissions d'attribution des logements
Est-ce
sociaux.
Est-ce que vous pouvez raconter aux auditeurs exactement comment on attribue aujourd'hui un logement social et comment
Cette semaine, j'étais par exemple dans une commission d'attribution à Paris, et donc j'ai pu voir le fonctionnement à Paris. Donc vous avez les élus locaux qui ont une représentation, les services de la préfecture, les réservataires du logement social, parce que vous savez que quand on construit du logement social, vous avez des réservataires.
Non, c'est quoi ça, des réservataires ?
C'est Action Logement, c'est la Caisse des dépôts, ce sont tous ceux qui ont contribué au financement de ces nouveaux logements sociaux et qui ont donc une quote-part d'attribution de logements sociaux. Pardon d'être complexe, mais c'est complexe dans l'attribution aujourd'hui. Donc ces commissions-là, ensuite, examinent les profils. Il y a plusieurs profils qui vous sont proposés. Vous voyez d'ailleurs pas le nom, ce sont des numéros, et on vous décrit le revenu des personnes, le nombre de personnes dans le ménage, est-ce qu'il y a des enfants ou pas, est-ce que ce sont des personnes qui sont d'allô, qui sont en difficulté ou pas, est-ce qu'aujourd'hui elles sont dans le parc social ou est-ce qu'elles le sont pas. Donc, vous avez plein d'informations, mais qui sont anonymisées, et qui ensuite vous permettent, et permettent à ceux qui sont autour de la table, d'attribuer du logement social, et d'accorder un logement qui se libère ou qui a été construit au candidat.
Et donc
là,
là
ce que nous allons faire,
ouais,
le maire est présent.
Il
le maire, les élus locaux aujourd'hui sont présents dans ces commissions, mais ils ont un rôle qui est très réduit. C'est-à-dire qu'ils ont aujourd'hui, ils sont pas présidents de ces commissions, ils n'ont pas le droit de veto et ils n'ont pas la possibilité de classer les différents profils en fonction de leur par exemple du fait que ça soit des habitants de la commune,
donc là, ils vont
de leurs
dire
enfants,
non, les maires.
Ils pourront classer les différents profils qui leur sont proposés, ils pourront mettre des droits de veto s'ils le motivent. Donc il y a bien une motivation qui est faite. Et comme les profils sont anonymisés, ce que vous savez, ce sont des informations factuelles, rationnelles et transparentes sur les habitants qui font la demande. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce qu'en réalité, les maires, parfois, ont le sentiment qu'ils construisent des logements sociaux, qu'ils sont à la manœuvre pour donner des permis de construire, et qu'ils ont en même temps dans la mairie des gens qui viennent de leur commune, qui disent « moi j'ai besoin d'un logement social, mais on m'a dit non ». Et à la place, vous avez parfois des habitants qui habitent à des cinquantaines de kilomètres du lieu, qui habitent pas la commune, ce sont pas les enfants de ceux qui sont dans la commune, ils sont même pas parfois dans les EPCI, et qui se sont vus attribuer un logement social. Ce que nous voulons faire, c'est que le maire ait le sentiment qu'il peut répondre aux besoins de ses habitants et de leurs enfants dans le territoire, et aménager
la société. Et de dire à ce futur habitant, tu voteras pour moi la prochaine fois.
Mais enfin, vous voyez systématiquement du clientélisme chez les maires. Mettez-vous à la place deux secondes des élus qui essayent de répondre aux besoins de leurs habitants. Le rôle premier d'un maire, c'est d'essayer de répondre aux besoins de ses habitants et de leurs enfants qui viennent leur dire « je galère, j'ai du mal à trouver un logement » et j'essaie de faire. Et c'est ça qui les encourage à signer les permis de construire pour créer du logement. Si on leur explique qu'ils vont créer du logement social, mais qu'ils n'ont aucune maîtrise de qui va venir dans le logement social, que c'est pas dans leurs mains, que c'est ailleurs, York, c'est traité par des agents, des fonctionnaires ou que sais-je, qui derrière décident pour le maire qui va dans le logement social. Comment voulez-vous qu'ensuite derrière, ils soient motivés pour signer les permis de construire ? Donc si on veut que les maires signent les permis de construire et soient encouragés à construire, faut qu'ils aient quand même un rôle dans les commissions dans lesquelles ils sont déjà présents et qu'ils puissent éventuellement lever la main et dire oui, tel profil me semble plus adéquat pour le logement social et l'encourager en fait à faire ce lien entre le permis de construire et l'attribution des logements sociaux. C'est en réalité une mesure de bon sens qui permettra d'accélérer la construction de logements sociaux sur le territoire.
Et donc je précise que le maire pourrait effectivement avoir un droit de veto sur du logement social neuf.
Exactement, sur des nouveaux logements sociaux. Et uniquement, je le précise, pour ceux qui ont déjà un certain taux de logements sociaux. Ce qui va les encourager aussi à le faire. C'est-à-dire que si vous avez dépassé un certain stock de logements sociaux, alors on vous donnera ce pouvoir-là d'être président de ces commissions d'attribution. Ce qui, encore une fois, est un mécanisme d'encouragement à en faire plus. Parce que si vous en faites plus, eh bien, on vous donnera une voix prépondérante dans ces commissions. Donc c'est de l'encouragement.
Vous annoncez 100 000 logements sociaux neufs, ce qui paraît énorme et beaucoup plus impressionnant que ce que vous annonciez en début d'émission.
Pourquoi 100 000 ?
C'est dans la loi.
Moi, ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 85 000 logements sociaux qui sont construits dans l'année. C'est faible, et moi, j'aimerais qu'on en construise plus. Si on peut en construire beaucoup plus pour répondre à la demande, bien évidemment qu'on souhaite en construire beaucoup plus.
Mais moi, j'ai lu votre loi, c'est juste ça. Et dans votre loi, c'est marqué article 2, plus de 100 000 logements sociaux.
Ce que nous souhaitons faire aujourd'hui, c'est construire plus de logements sociaux, plus de logements intermédiaires, plus de logements libres. Et donc oui, on en veut plus. Je m'en cache absolument pas.
Audrey, je voudrais revenir aux commissions que vous avez très bien expliquées, notamment de la ville de Paris, et à la notion de clientélisme. Vous nous avez expliqué effectivement comment se déroulaient ces commissions et aujourd'hui le maire est observateur. Vous le savez sans doute, cette règle, qui est une règle vertueuse, a été créée dans les années 2000, après le scandale des HLM de la ville de Paris, où effectivement on avait découvert que Jacques Chirac, maire de Paris, faisait du clientélisme à tout va et donnait des logements sociaux à ses amis. Et à partir de là, il a été décidé que les maires soient présents mais observateurs et que l'administration et l'État, finalement, aient le plus grand poids dans la balance. Là, vous voulez réinverser la situation et redonner du poids aux maires, si je comprends, au détriment peut-être de l'administratif.
Alors non, parce qu'en réalité, chacun gardera son quota de réservataire. La préfecture pourra mettre des personnes en difficulté, des dalots. Action Logement mettra des travailleurs. Vous aurez toujours les 5% de fonctionnaires. Donc chacun va garder son quota. Donc vous aurez bien une sociologie qui est parfaitement équilibrée.
Avant les années 2000.
Et le maire, vous lui donnez une voix prépondérante à l'intérieur. Mais je le redis, on a besoin de les encourager à signer les permis de construire. Et si on veut qu'ils signent plus de permis de construire sur le logement social, ça fait partie des mesures qui les inciteront à en faire plus parce qu'ils se sentiront liés par ces commissions d'attribution, donc nous les assumons. Et entre parenthèses, depuis l'an 2000, les commissions ont largement changé. Aujourd'hui, vous avez des profils qui sont anonymisés avec des numéros sur lesquels vous n'avez pas tout le détail, vous n'avez pas le nom, vous n'avez pas le prénom, vous avez peu d'informations en réalité personnelles. Ce que vous savez, ce sont des informations factuelles. Les choses ne sont... On n'est plus en l'an 2000, on est en 2024. Donc, quand vous regardez les systèmes d'attribution et de présentation des profils, encore une fois, ils sont extrêmement anonymisés. Et donc, moi, je ne crains absolument pas le mécanisme que vous décrivez, mais on aura le débat avec... Mais en l'an 2000... On est en 2024, aujourd'hui ça fonctionne plus pareil. On a besoin d'encourager les maires à construire plus de logements sociaux. Moi, ce que je veux à la fin, c'est qu'ils signent les permis de construire. Si ça permet de les encourager à signer et à faire plus de logements sociaux, c'est gagnant pour tout le monde. C'est gagnant pour ceux qui demandent un logement social, c'est gagnant pour eux parce que ça leur permet de répondre aux besoins des habitants, c'est gagnant pour la préfecture et les réservataires parce qu'ils pourront mettre plus de gens dans le logement social parce qu'il y en aura plus. C'est un cercle vertueux. Mais il faut encourager les maires et il faut leur faire confiance. N'ayez pas une telle défiance vis-à-vis des élus locaux et des maires. Moi, je fais confiance et je suis dans une optique de décentralisation. Et c'est exactement ce que nous allons faire avec ce projet de loi.
Guillaume Kasbarian est notre invité ce dimanche dans Questions politiques en direct. Et jusqu'à 13h, on parle donc toujours de votre projet de loi présenté vendredi et relatif au développement de l'offre de logements abordables, je le redis. Pour cela, vous avez décrété la fin du logement social à vie, sauf que pour Guillaume Eschelmann, chargé de mission au CLCV, l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie, ça va concerner finalement très peu de personnes. Très peu de personnes devront effectivement quitter leur logement. Je vous propose qu'on l'écoute.
Au final, il n'y a que 3% des locataires actuellement qui sont concernés par un dépassement des plafonds de ressources, c'est-à-dire ils ont 1 euro de plus que les plafonds. La moitié seulement de ces 3% dépasse de plus de 20%, donc sont soumis à un surloyer. Et seulement 8 000 ménages, sur près de 5,5 millions, sont concernés par un dépassement large.
Donc c'est un projet de loi pour rien.
C'est un projet de loi pour rien, c'est un assemblage assez hétéroclite de mesures pour faire un petit peu démago, pour faire joli sur le papier, mais c'est pas ça qui va nous sortir de la crise du logement.
Alors, vous êtes démagogue ou quoi? La fin du logement social à vie, ça va marcher ou pas? Est-ce que ça va redonner de l'offre du logement?
J'ai vu les réactions irrationnelles de certains, qui parfois se prétendent de gauche d'ailleurs, et ça m'épate, parce que c'est une mesure de justice sociale. Ce que je dis, c'est que le logement social vous permet, dans votre vie, de vous en sortir, au départ. Mais que si, à un moment, vous avez des revenus qui augmentent significativement, ou que vous avez du patrimoine, eh bien, il faut probablement laisser votre place à ceux qui en ont le plus besoin. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on a 5,5 millions de logements sociaux et on a 2 millions de personnes qui font la queue depuis des années pour pouvoir avoir un logement social. Donc, pour leur répondre, il faut bien sûr construire plus de logements, et ça, on en a parlé. Mais il faut aussi améliorer la gestion du parc qui, aujourd'hui, a une rotation très faible, c'est-à-dire que peu de monde quitte son logement social. Et effectivement, examiner les revenus d'une part, les chiffres sont pas
exacts. Mais quand vous dites
exacts,
augmentation significative,
les revenus c'est aujourd'hui, 8% des occupants du parc social sont au-dessus des plafonds.
Bon. 8%.
8% des occupants du parc social sont au-dessus des plafonds de revenus. C'est-à-dire que si candidatez.
Si, c'est
grosso modo 400 000 logements qui sont concernés.
D'accord.
Si ces personnes-là venaient à candidater pour du logement social aujourd'hui, elles ne pourraient même pas déposer leur dossier puisqu'elles sont au-delà des plafonds de revenus.
Donc elles vont payer plus cher, mais elles vont pas quitter leur logement.
Vous avez un plafond. Au-delà de ce plafond, dès que vous le dépassez, vous paierez ce qu'on appelle un surloyer. Et ensuite, si vous avez dépassé ce plafond de revenus de plus de 20% pendant 2 années successives, alors le bailleur résiliera votre bail et vous laissera 18 mois pour vous retourner.
Et ça peut représenter combien de personnes?
C'est des dizaines de milliers de logements qui vont être concernés, mais il y a une chose que l'on ne sait pas, pardonnez-moi, parce que ça n'est pas mesuré aujourd'hui, c'est le patrimoine. Autant les revenus font l'objet d'une déclaration de revenus, mais qui est perfectible, parce que ce n'est pas le cas partout. Mais sur le patrimoine, nous n'avons aucune donnée et aucune information puisqu'il n'est pas regardé et il n'est pas exigible. Si bien que vous pouvez être locataire du parc social, avoir hérité de vos grands-parents, de vos oncles et tantes d'une résidence secondaire ou même d'une résidence
ailleurs. Ce qu'on appelle une maison de famille.
Une maison de famille ou autre chose. Personne ne le sait et ça ne change absolument rien à votre situation.
Nous, ce que
nous souhaitons, c'est de dire qu'il n'est pas normal quand vous avez 2 millions de personnes qui font la queue depuis des années pour entrer et qui sont sous les plafonds et qui galèrent. Expliquer qu'on va ne rien regarder sur ceux qui sont dans le parc et c'est pas grave s'ils gagnent plus que les plafonds, c'est pas grave s'ils ont du patrimoine, c'est pas grave s'ils ont hérité. Pardon, mais que des gens de gauche m'expliquent que c'est tout à fait naturel et qu'il faut rien faire,
mais par contre, ça
me paraît extrêmement surprenant.
Sa maison de famille, elle
d'autant
est loin. Elle est loin de là où on habite et là où on
d'autant
travaille.
Plus, je termine juste sur ça. Ouais. D'autant plus que les plafonds dont on parle sont significativement élevés puisque les deux tiers des Français sont éligibles au logement social. Donc à Paris, le plafond de revenu net pour un célibataire, le plafond maximum de revenus aujourd'hui, même pas avec ma loi, aujourd'hui, il est à 3104 € net mensuel. Pour un couple avec enfants, c'est 5528 €. Et pour un couple avec 2 enfants, on est à 7260 €. C'est-à-dire que ce sont des couples avec enfants avec plus de 7000 € qui peuvent être dans le logement social.
Donc c'est trop haut. Vous voulez baisser de combien?
Nous, le plafond d'éligibilité, on le touche pas. C'est le plafond aujourd'hui. Les deux tiers des Français sont éligibles au logement social. C'est comme ça. C'est le plafond aujourd'hui. Ce que nous disons, c'est quand vous le dépassez, et il est déjà très élevé, quand vous le dépassez, il est normal qu'on vous demande un surloyer. Et quand vous l'avez dépassé franchement pendant 2 années de suite, il est normal qu'on vous demande de laisser la place à des couples qui peuvent être à 1500 ou 2000 ou 2500 €. Ça s'appelle de la justice sociale. Et que des gens qui sont a priori sensibles à la question de la justice sociale montent sur leur grand chevaux en expliquant que, mon Dieu, quelle horreur, on va demander le patrimoine et le revenu de gens qui sont à plus de 7000 € par mois à Paris. Mais pardon, mais enfin, je veux dire, on marche sur la tête.
Oui, mais
donc,
le problème,
c'est une mesure de bonne gestion.
On n'arrive pas très bien à voir si ça va vraiment permettre de faire ce choc de l'offre.
Ce qui permettra de faire le choc de l'offre.
On n'a pas de chiffres très précis pour l'instant.
Parce que c'est pas mesuré.
Mais d'accord. Et après, quand vous parlez de maison de famille, si ma maison de famille, elle est anglette, vous preniez cet exemple-là tout à l'heure, et que je travaille dans la Somme, je vais pas changer de vie et je vais pas changer de travail. Donc comment je fais?
Si vous êtes pas, mais bien sûr, ça sera fixé d'ailleurs par décret et ça fera l'objet d'un débat parlementaire. La question est de dire quel est le bien équivalent. Mais si c'est sûr que si c'est un studio dans une région très lointaine, inhabitable, c'est pas la même chose que si c'est un logement dans votre ville qui est une surface comparable, si ce n'est plus grande, que ce que vous avez aujourd'hui.
Donc ça va représenter combien de logements?
Je ne peux pas vous donner de chiffres puisque c'est le patrimoine n'est pas mesuré aujourd'hui par les bailleurs sociaux. C'est pour ça qu'on fait cette loi, notamment sur cet aspect. C'est pour dire que comme ça n'est pas mesuré, comme ça n'est pas déclaré, comme on ne le sait pas, il faut le faire. Mais c'est de la bonne gestion. Pour répondre aux 2 millions de demandeurs qui font la file d'attente depuis des années, il faut construire plus de logements. C'est tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure pour encourager à la construction. Mais il faut aussi avoir des mesures de bonne gestion sociale qui vérifient que le logement social va d'abord à ceux qui en ont le plus besoin. Et donc, c'est vérifier à un moment que son patrimoine n'a pas complètement évolué ou que son revenu n'a pas évolué. Et comme les plafonds de revenus sont déjà très élevés, on parle de personnes, encore une fois, à Paris, un couple avec deux enfants, plus de 7000 euros. Enfin, je veux dire, faut être sérieux.
Question de François Fressos.
Votre projet de loi va arriver au Sénat au mois de juin. Vous êtes plutôt confiant sur la possibilité de le faire adopter ou est-ce que ça va être compliqué
Écoutez, moi, j'ai été parlementaire pendant 6 ans et demi et je suis très attaché à la co-construction des textes avec les parlementaires. Donc j'ai rencontré au Sénat énormément de parlementaires, plus d'une centaine au global entre Sénat et Assemblée, avec de vrais spécialistes du logement au sein de différents groupes, le groupe LR, le groupe des centristes, le groupe de M. Maluret, le groupe de M. Patria. Et donc j'ai rencontré des experts sur ce sujet-là qui aujourd'hui regardent ce projet de loi avec grande attention. Ils ont envie de pouvoir en débattre. Je salue d'ailleurs la présidente de la Commission des affaires économiques, Dominique Estrosi Sassone. Ils ont envie d'en débattre. À ce stade, on ne voit pas de ligne rouge qui fait qu'ils ne le voteraient pas. Et par contre, leur volonté, la volonté des sénateurs et des députés est de renforcer le texte avec des amendements. Et moi, je suis très ouvert à la co-construction parlementaire. Donc, les parlementaires et les sénateurs vont vouloir, sur chacune des parties, aller plus fort.
Donc, on est parti sur une surenchère sur pratiquement tous les articles et peut-être sur d'autres projets de loi aussi.
J'ai été parlementaire et c'est légitime quand vous êtes dans votre circonscription que vous répondez aux gens de vouloir aller le plus loin possible dans les réponses qui sont apportées aux gens qui vous sollicitent. Et donc, bien sûr que les députés et les sénateurs vont vouloir aller le plus loin possible sur chacune des parties, sur chacun des articles de ce projet de loi. Et en réalité, mais je m'en réjouis, parce que ce que je veux à la fin, c'est pas un texte qui soit mou, c'est un texte qui soit le plus puissant possible et qui, travaillé avec les parlementaires, puisse répondre à ce choc d'offres, puisse mettre plus d'offres sur le marché et puisse répondre aux habitants de nos territoires. Donc moi, j'ai pas peur du débat parlementaire. Au contraire, je l'attends avec impatience. Et j'ai pas peur de l'enrichissement avec des amendements parlementaires. Au contraire, je les encourage à faire des amendements. Donc nous allons y travailler ensemble et j'ai bon espoir, effectivement, qu'on se retrouve avec une majorité sur ce texte et nous en sommes parfaitement capables.
Je voudrais qu'on aborde un point qui n'est pas dans votre loi, Guillaume Kasbarian, mais qui est important. Est-ce que vous pensez qu'il va falloir sanctionner les familles d'enfants délinquants en les expulsant éventuellement de leur HLM?
Alors, comment on ouvre le débat de regarder qui est dans le parc social en termes de revenus, en termes de patrimoine? La question peut être posée. La question peut être posée de se dire évaluons aussi les incivilités, les délits et les crimes. Et il y a d'ailleurs des familles qui aujourd'hui sont condamnées par la justice pour défaut et pour incivilité et pour crime et pour délit. Donc, ce lien-là est tout à fait possible. Aujourd'hui, déjà, en réalité, il y a déjà des dispositions qui existent, hein, parce que c'est pas quelque chose de nouveau. Est-ce qu'il faut les renforcer dans le projet de loi? Moi, j'y suis ouvert. Et je pense qu'on peut faire mieux sur
ce
sujet.
Ouvert, ça veut dire que vous le souhaiteriez?
C'est-à-dire que le gouvernement et les parlementaires pourraient aller plus loin sur le sujet.
En déposant un amendement?
Parce que, mais bien sûr, parce que, mais attendez, il n'est pas normal que des personnes qui vivent dans le parc social, qui vivent dans les logements sociaux, soient embêtées, pour le dire poliment, par certains qui ne respectent pas les lois et font de la délinquance. Je ne vois pas pourquoi il y aurait une sorte de statu quo où on se dit qu'il est tout à fait normal de laisser dans le parc social, qui, je le répète, le parc social est quelque chose où la société met de l'argent. C'est quelque chose qui permet d'aider ceux qui sont le plus en difficulté. C'est un effort national pour loger ceux qui en ont le plus besoin.
Non, mais la question, c'est pas ça.
C'est en normal fait,
vous êtes pas très clair.
Que, là aussi,
vous dites, il existe déjà des textes, mais vous êtes ouvert à, il faudrait mettre un amendement.
Bah, bien sûr.
Donc, vous allez téléguider un député pour le faire? Vous allez mettre
ça
quoi dans la loi?
Soit comment le gouvernement qui dépose un amendement sur le sujet, soit des sénateurs ou des députés qui l'écrivent. Mais il me semble tout à fait utile et même souhaitable que quand on étudie ceux qui sont dans le parc pour vérifier qu'ils sont bien légitimes à y être, soit sur une question de revenus, soit sur une question de patrimoine, il me paraît légitime de pouvoir évaluer aussi s'ils sont bien respectueux des règles de la République et respectueux des règles de la copropriété.
Oui, mais aujourd'hui, les bailleurs peuvent déjà agir.
Bon, avec un certain délai, parfois avec quelques difficultés. Donc la question, c'est quels sont les trous dans la raquette? Comment est-ce qu'on les crée ensemble pour avoir quelque chose qui tient la route d'un point de vue juridique? Mais on peut tout à fait aller plus loin sur ce sujet-là. Je le redis, l'ordre et l'autorité, ça vaut pour tout le monde.
Mais vous avez une idée des critères qu'on pourrait mettre?
On y travaille. On y travaille de notre côté avec l'administration. Les sénateurs y travaillent également de leur côté. Mais
ça
fait
beaucoup de mystère, là. Mais qu'est-ce qu'on en fait, ces familles?
Ça fait partie de la co-construction parlementaire. Mais bien sûr que c'est notre travail quand on légifère d'aller le plus loin possible sur ces sujets, de garantir que quand on vit dans un logement social, eh bien, on n'est pas embêté par des troubles forts, graves, qui peuvent avoir lieu dans le logement social.
Ça va être compliqué dans votre majorité, parce que le précédent ministre du logement, Vergriette, j'ai perdu son prénom, vous me pardonnerez, était plutôt opposé, et Sacha Houlier, le président de la commission des lois, tendance effectivement lui aussi de gauche, contrairement à vous, y était opposé également. Donc ça veut dire qu'il va falloir convaincre votre majorité de le faire.
Justement, c'est pour ça qu'on travaille tous ensemble sur le sujet. Mais je crois crois d'ailleurs que tous les parlementaires, et qui plus est les parlementaires de la majorité, sont attachés à ce que ceux qui vivent dans le logement social puissent y vivre calmement,
mais ça va être compliqué
décemment.
C'est juste ça.
Il faut l'écrire ensemble. Je dis, si j'avais la martingale, je l'aurais déjà mis dans le projet de loi initial. C'est quelque chose qu'on va travailler ensemble, mais sur lequel il me paraît naturel de pouvoir répondre à l'aspiration des habitants du logement social qui souhaitent vivre en paix, calmement, dignement, sans être embêtés par parfois des délinquants ou des familles de délinquants.
Ce sera dans votre
choix. Donc, on va faire en sorte de le renforcer, d'aller le plus loin possible sur ce sujet.
Allez, question d'Audrey Goutard.
Il n'y a pas de tabou sur ce projet de loi.
Oui, j'ai bien compris. Voilà. Sur le grand nettoyage des squats, en ce moment, à Paris et en région parisienne, juste avant les Jeux Olympiques.
Et d'ailleurs, quelque part, même si ce ne sont pas du tout les mêmes populations, ça peut rejoindre ce dont on vient parler, de parler. Qu'est-ce qu'on fait des 450 personnes qui ont été virées du grand squat, du plus grand squat de France, dans le Val-de-Marne. Donc ce squat a été évacué, 450 personnes qui bénéficiaient du droit d'asile, mais qui n'avaient pas réussi à obtenir de logement, ont été dispatchées dans des logements provisoires. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux ? Et la question est la même, qu'est-ce qu'on va faire des familles que vous, de délinquants, etc., et qui sèment le trouble dans les voisinages ? Qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens dont on ne veut pas et dont les maires ne veulent pas et qui n'ont pas leur place finalement dans des logements sociaux au calme, mais qui existent quand même. Ces gens-là sont là. Donc qu'est-ce que vous allez en faire ?
Alors, l'État ne fait pas rien sur la question de l'hébergement d'urgence.
Je n'ai pas dit que vous faisiez rien.
Je sais bien, mais je préfère le préciser parce qu'on a parfois l'impression que rien
ne fait. Mais après, à un moment donné, il faut dire, trouver, si vous le savez, ces gens-là sont dans les clous, dans la loi, il faut leur trouver des logements.
Bien sûr. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'État consacre 3 milliards chaque année à l'hébergement d'urgence dans notre pays. C'est un montant qui est en augmentation depuis 2017, où à l'époque c'était 1,8 milliard. Nous avons aujourd'hui 200 000 places d'urgence pour traiter le cas des personnes...
C'est de l'hébergement provisoire. Oui. Là, ce sont des gens le droit d'asile, qu'il va falloir loger de façon pérenne. Qu'est-ce qu'on fait d'eux alors qu'on
le
a 600 000 demandes
Nous avons, je le répète, 200 000 places dans notre pays, 100 000 en Ile-de-France, qui permettent d'héberger en urgence quand il y en a besoin. Et ensuite, vous avez des parcours qui font qu'une fois que vous êtes passé par l'urgence, soit on vous propose une sortie en logement social, quand c'est possible, soit on vous propose une sortie en résidence sociale, ou dans des familles d'accueil, ou en intermédiation locative. Et donc, il y a ensuite des pistes, ça s'appelle le plan logement d'abord, qui a été monté par mes prédécesseurs, et qui permet chaque année de sortir énormément de monde de l'urgence, pour les amener vers de l'habitat un peu plus pérenne. Et donc l'État prend sa part, en réalité, sur cette question de l'urgence,
mais là, très
en donnant 200 000
places
à des personnes. Mais elles trouveront pour une partie d'entre elles.
Il n'y a pas de place dans les logements sociaux. On vient d'en parler, c'est pour ça qu'il y a une loi, il n'y a pas de place. Donc pour ceux-là qui sont dans les derniers de l'échelle,
on les met où ?
Excusez-moi, je vous retourne la question. La solution, c'est de laisser les squats continuer, en fait, et dire c'est normal. Moi, je pense que sur l'échelle... sur l'échelle, en tout cas, des décisions politiques à prendre, on peut pas laisser des squats perdurer et des bidonvilles prospérer. Ça crée de la délinquance, c'est pas bon, c'est pas des conditions sociales d'accueil. Donc, bien sûr que quand il y a des bidonvilles qui se créent, quand il y a des squats qui se créent, il faut pouvoir sortir de ça et proposer des solutions. D'où le fait qu'il y a des places d'urgence aujourd'hui qui permettent de pallier l'urgence, et un plan logement d'abord qui permet à ceux qui sont dans l'urgence d'évoluer vers du logement qui est plus pérenne. Et le budget est aujourd'hui significatif, et il a été en augmentation massive depuis les dernières années.
Ce qu'on disait au tout début, c'est juste ou pas, il y a la volonté de nettoyer un petit peu quand même là, juste avant les Jeux Olympiques.
Mais non,
c'est faux de dire ça.
Il n'y a aucune volonté de nettoyer avant les Jeux Olympiques. On a une question de développement, mais à Paris, en Ile-de-France principalement, soit de bidonville, soit d'hébergement très précaire, sur lequel on peut pas laisser s'installer ce genre de baraquement précaire, parce que c'est pas bon pour la santé des gamins qui peuvent être à l'intérieur, parce que c'est pas acceptable, parce que ça peut créer de la délinquance, parce que ça vient prendre des terrains qui pourraient être utilisés pour construire.
Et donc, à 85 jours des Jeux Olympiques.
On peut pas. Mais non, mais donc c'est indépendant de la question des Jeux Olympiques.
Enfin,
je veux dire, réjouissons-nous de ce bel événement qu'est les Jeux Olympiques, qui est un bel événement populaire. Okay. Et bien sûr, il y a des questions d'hébergement précaire qui se posent, mais tout au long de l'année, Jeux Olympiques ou pas Jeux Olympiques.
Françoise.
Airbnb. Votre position personnelle sur faut-il réglementer davantage, fiscaliser davantage les propriétaires qui font du Airbnb ? Parce qu'on voit qu'il y a certains élus qui demandent à agir et on voit l'administration fiscale qui freine un peu. Qu'en est-il ? Quelle est votre volonté à vous ?
Exemple vraiment caricatural, Biarritz, 65% de logements
Exactement.
Airbnb.
Et d'ailleurs, on a une proposition de loi qui a été portée par Anaïs Glemmer et Iñaki Etxaniz, transpartisane à l'Assemblée nationale, que j'ai moi-même co-signé quand j'étais député, et qui a été adoptée à l'Assemblée nationale. Ce que nous disons et ce que le gouvernement dit, c'est que cette proposition de loi d'initiative parlementaire va être inscrite au Sénat d'ici la fin du mois de mai, que nous la soutenons. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui...
Application quand ?
Pourquoi ? Attendez, je vous explique deux secondes. aujourd'hui, vous avez la liberté de faire ce que vous voulez avec votre bien, ça s'appelle la liberté de la propriété, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, vous avez une éviction du marché locatif traditionnel, dans certains endroits, vous citez le Pays Basque, vers la location touristique. Pourquoi ? Parce que c'est plus rentable, parce qu'il y a plus de liberté et de flexibilité. Et puis, et c'est là le problème, parce qu'il y a des règles que l'État a fixées qui créent une distorsion entre le marché. Et donc, on a un abattement fiscal qui est trop important sur les locations touristiques. Il va falloir le revoir à la baisse. C'est une des mesures de cette proposition de loi.
Ça devait déjà être fait dans le précédent budget. Ça devait être fait dans le budget 2024 et vous l'avez
repoussé et l'a inscrite au Sénat. Premier sujet, rééquilibrage fiscal. Deuxième sujet, quand vous louez votre appartement à Biarritz, un basque, un local, vous devez faire des travaux et de faire un DPE. Quand vous louez un touriste, vous n'êtes pas obligé de le faire. Un diagnostic de performance énergétique. Ce diagnostic n'est pas demandé quand vous louez un touriste. On veut permettre aux maires, encore une fois, de mieux réguler pour imposer des diagnostics et des travaux quand il le faut. Et puis on veut permettre aux maires de pouvoir réguler. Je vous parlais tout à l'heure de décentralisation. Cette proposition de loi, elle contient des mesures qui permettront aux maires de mieux réguler pour éviter que des logements qui sont loués...
C'est-à-dire que le maire pourra dire,
je mets des quotas, je mets des quotas, je mets des conditions, je mets des critères qui permettra, je crois à la décentralisation et aux maires, donc je donne un pouvoir aux maires supplémentaire, et donc ils pourront, dans les territoires où c'est pertinent et s'ils le souhaitent, appliquer des règles de régulation pour éviter ce transfert qu'on peut observer au Pays Basque, mais aussi ailleurs, de logements qui initialement étaient loués à des locaux et qui ensuite se retrouvent de plus en plus loués à des touristes au détriment des habitants locaux qui en ont besoin. Donc cette régulation, elle a été votée à l'Assemblée nationale. Nous la soutenons. Nous l'avons inscrite au Sénat pour la fin du mois. Et donc j'ai bon espoir que dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, députés et sénateurs s'accordent sur une version qui permettra de rééquilibrer les règles fiscales, rééquilibrer les règles énergétiques et donner plus de pouvoir aux maires de réguler sur le terrain quand il y en a besoin pour éviter ces phénomènes-là.
Régulation, vous avez dit, vous qui êtes libéral, comment c'est possible?
Mais les libéraux n'ont jamais été totalement hostiles à la régulation, mais il faut que ça se fasse intelligemment avec les acteurs de terrain, et donc voilà, bien sûr.
Merci beaucoup Guillaume Casbarian. Vous restez bien sûr avec nous, le temps d'accueillir notre second invité pour le livre de la semaine.
France Inter. Question politique. Karine Bécart.
Bonjour, prenez le temps de vous installer. Bonjour Thibault Muzergue.
Bonjour.
On est très heureux de vous recevoir sur le plateau de Questions politiques. Vous êtes politologue et l'auteur d'un livre passionnant intitulé « Post-populisme, la nouvelle vague qui va secouer l'Occident ». Dans cet ouvrage publié aux éditions de l'Observatoire, vous expliquez donc que le populisme dont on a beaucoup parlé, hein, le populisme à la Trump, le populisme à la Bolsonaro, le populisme à la Johnson, eh bien ce populisme est en train d'être dépassé par une autre doctrine que vous appelez donc le post-populisme qui est en train d'arriver, et comme vous l'écrivez dans votre introduction notamment, qui est en train d'arriver à maturité. Première question, toute simple, c'est quoi le post-populisme ? Comment le définir ? Comment repérer les signaux annonciateurs de ce post-populisme ?
Oui, alors le post-populisme, en fait, c'est à la fois un moment et une doctrine. Et je vais peut-être me concentrer sur la doctrine, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Cette doctrine, cette doctrine, en fait, c'est comme vous le disiez, c'est un dépassement de la donne populiste qui, en fait, est le moment révolutionnaire finalement des années 2008-2020 est terminé. Ce moment révolutionnaire a été défini par un clivage entre les populistes d'un côté et les élites de l'autre. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'avait aux dernières élections européennes, s'était emparé de ce clivage. C'était les populistes contre les progressistes, et on revient en fait à un clivage droite-gauche. Beaucoup plus classique finalement, sauf que la droite et la gauche ont changé. Vous avez une droite aujourd'hui qui est toujours libérale, qui est redevenue libérale, on va dire, au niveau économique, mais qui est beaucoup moins libérale sur les questions de société, et une gauche qui est en train de se chercher, mais qui est à voir si elle est libérale du point de vue économique. J'ai l'impression qu'elle devient beaucoup moins libérale du point de vue économique et du point de vue sociétal, qui est en train de changer à nouveau. Donc c'est le post-populisme, en fait, c'est ça.
Donc du coup, pour l'instant, le populisme n'existe ou n'aura existé que quelques dizaines d'années. Ça aura été assez court.
Comme toujours, le populisme, à chaque fois, c'est une crise. Ça correspond à une crise, à un moment révolutionnaire où les choses sont en train de changer et le clivage est bousculé. Vous aviez un clivage qui n'existait pas. En fait, c'était un consensus avant 2008, qui était en fait finalement un libéralisme économique auquel s'était adjoint un libéralisme sociétal. Aujourd'hui, on est dans une période qui est différente, où ce couplage, il y a eu un découplage entre libéralisme économique et libéralisme sociétal, et on revient finalement à un vrai clivage droite-gauche qui parfois est assez violent, mais qui correspond finalement à la normalité de la politique depuis le 19e siècle, depuis 1789.
Vous pouvez peut-être le constater dans d'autres pays que la France, mais en France, moi, ce qui me frappe quand même, c'est que Marine Le Pen, qui domine le paysage politique, elle n'est pas du tout libérale. Elle est plutôt dans une doctrine très sociale. Est-ce qu'il n'y a pas une exception en France ?
Alors, moi, je ne pense pas qu'il y ait une exception en France. Je pense qu'effectivement, la France est à la traîne. Il y a plusieurs raisons à cela. La crise morale.
Elle est à la traîne pour entrer dans ce poste populiste.
Voilà,
ça,
oui, tout à fait. Vous avez des pays qui sont à l'avant-garde, l'Italie, la Suède, par exemple, la République tchèque aussi. Mais effectivement, la France est à la traîne. Mais on voit qu'il y a ce mouvement. Le Rassemblement national d'aujourd'hui n'est pas le Rassemblement national de 2017. En 2017, Marine Le Pen annonçait une sortie de l'euro, un référendum sur la sortie de l'Union européenne. On n'en est plus là. Le problème, c'est que le Rassemblement national s'est arrêté au bout du guet. Aujourd'hui, pour moi, le litmus test pour les post-populistes, vous avez un libéralisme économique, on n'est clairement pas sur le Rassemblement national, soutien à l'Occident et opposition à la Chine et à la Russie, on n'est clairement pas au niveau du Rassemblement national, et enfin le respect des institutions. Pour l'instant, il y en a un sur trois. On va voir ce que ça
va
donner.
Mais là, le post-populisme est plus incarné en France par le parti Reconquête, peut-être.
Non, par
plus
personne.
Proche également.
Pas du tout.
Non, d'accord.
Est-ce que ça ne ressemble pas ? Moi, quand j'ai lu votre livre, j'ai pensé à la droite dure des années 70-80, à Poniatowski, à toute cette... où à la fois il y a du libéralisme, mais il y a du conservatisme aussi, et puis il y a cette notion de France souveraine, et je trouvais que ça ressemblait, et c'est à peu près débarrassé de tout ce qui est raciste, donc je trouve que le post-populisme ressemble à cette droite française des années 80, c'est une erreur ou pas ?
Oui, un petit peu. Alors, c'est toujours difficile de faire. C'est toujours difficile.
On a tendance à faire d'essayer de trouver des parallèles.
C'est toujours difficile de faire. C'est toujours difficile de faire des parallèles. Mais effectivement, en fait, vous avez une droite qui, une ancienne extrême droite, qui est en train de se centriser. Vous voyez avec Giorgia Meloni en Italie, mais qui est vraiment en train de se centriser. Moi, j'habite à Rome, je travaille avec Fratelli d'Italia depuis plusieurs années. Il y a eu un vrai travail, ils ont fait un vrai travail sur eux.
Vous travaillez avec ou vous travaillez sur ?
Je travaille sur.
D'accord.
Les deux. Donc, je connais ces personnes, je les ai vues évoluer intellectuellement, et je travaille avec eux, mais je travaille aussi avec des gens du Parti démocrate, etc.
Oui,
etc.
Vous n'êtes pas militant,
non, je ne suis pas militante du tout. Mais ce qu'on voit...
Non, mais ça méritait d'être souligné et compris, parce que
c'est
ambigu.
Oui, tout à fait. Mm-hmm. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une vraie évolution, et c'est quelque chose de sincère, ce n'est pas seulement une stratégie politique. Il y a vraiment une sincérité dans le propos. Le problème, effectivement, qu'on a aujourd'hui avec la centralisation la dédiabolisation du Rassemblement national, c'est qu'on ne sait pas, on ne sait toujours pas aujourd'hui s'il est sincère ou non. Quant à Reconquête, vous parliez de Reconquête tout à l'heure, moi j'ai l'impression que Reconquête, au contraire, c'est une hésitation finalement entre aller plus loin dans le populisme ou effectivement aller vers le post-populisme. Vous avez plusieurs partis qui sont dans ce dilemme et qui ne choisissent pas, comme Vox en Espagne. Et cela, je ne suis pas sûr qu'ils soient promis à un grand avenir.
Une petite question à Guillaume Kasbarian, notre invité. Vous repérez tout ça, vous l'observez est-ce que vous avez le sentiment qu'on est en train de changer d'air politique ?
Moi, j'ai toujours eu du mal avec le clivage gauche-droite. J'ai toujours considéré que la gauche était peut-être un peu libérale sur les questions de société, mais pas du tout sur les questions économiques, et que la droite avait beaucoup perdu en libéralisme sur les questions économiques et était conservatrice sur les questions de société. Moi, qui ai toujours été libéral en toute sincérité, je ne me suis jamais caché, et sur les questions économiques et sur les questions de société, je ne me suis jamais vraiment reconnu dans le clivage gauche-droite.
Mais là,
je suis
ça
pas
vous
sûr
inquiète
que les Français
ça vous inquiète
se
de penser que
ça.
Peut-être que ça va revenir ?
Non, moi je crois pas vraiment que ce clivage revienne. Les gens sont pas tous les jours en train de me dire je suis de gauche, je suis de droite, et ce clivage-là me paraît peut-être un peu daté, surtout que les formations eux-mêmes ont créé beaucoup d'opacité sur leur sincérité politique au sein de leur mouvement. Quand on se dit de gauche, qu'est-ce qu'on défend vraiment? Quand on se dit de droite, est-ce qu'on est vraiment libéraux? Regardez le vote qu'on a eu sur le CETA au Sénat. Vous avez tout d'un coup une grande alliance de la gauche et de la droite pour s'opposer au libre-échange. Donc, typiquement, un libéral ne s'oppose pas au libre-échange et au contrat. Donc, moi, je trouve que dans la période actuelle, face à la complexité, et parfois au manque de sincérité des uns et des autres, il faut le dire, parce que vous avez parlé de sincérité, faut savoir s'assumer. Et moi, j'essaye d'être en tout cas le plus clair possible, défendre la liberté économique, la liberté sociétale. C'est ça, là, c'est une question de sincérité.
La réponse
c'est,
de
c'est
Thibault
bien,
Mizel.
Il n'y a pas assez de libéraux en France, de mon point de vue, j'en suis très heureux. Maintenant, le problème, c'est que si vous demandez aux gens de se positionner sur une échelle droite-gauche, ils le font, la plupart des gens le font, et ils le font de plus en plus de moins en moins sur le centre-centre et de plus en plus sur le clivage droite-gauche. Oui. Le problème du clivage droite-gauche, c'est que c'est un clivage qui change constamment. 1789, c'est en août 1789, c'est le moment où la droite et la gauche sont entre guillemets inventées, et la question était sur le veto du roi, s'il devait être suspensif ou absolu. Ce qui définit la gauche et la droite aujourd'hui, je crois que vous serez d'accord tous, c'est pas la question du veto du roi. Hein, on est passé au-delà. Donc c'est quelque chose qui évolue constamment, mais je crois que c'est quelque chose qui structure le débat depuis qu'on l'a inventé finalement
et qui marche.
Et on y revient progressivement.
Merci à tous les deux. Merci Thibault Muzergue. Votre livre Post-populisme est publié aux éditions de l'Observatoire. Merci à vous aussi, Guillaume Kasbarian, d'être venu sur le plateau de Questions politiques aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de Questions politiques, en particulier à la rédactrice en chef Fabienne Lemoyle et au programmateur Amaury Baucher. Je vous souhaite évidemment une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine.